Je me souviens de tout. Une semaine plus tôt. Mardi 8 octobre 2013. Paris. La fin d'une belle journée d'automne. Le soleil rasant qui se couche à l'horizon embrase la capitale, se reflète sur les vitres des immeubles, le courant du fleuve, les pare-brises des voitures, et déverse une coulée lumineuse entre les avenues. Une vague de lumière qui éblouit et emporte tout sur son passage. Aux abords du parc André Citroën, ma voiture s'extrait des embouteillages pour prendre la rampe en béton menant à un vaisseau de verre posé devant la Seine. La façade de l'hôpital européen Marie Curie ressemble à la proue d'un paquebot futuriste qui aurait fait escale au sud du 15e arrondissement, épousant l'angle arrondi du croisement de la rue, offrant un miroir aux arbres de Judée et aux massifs d'aubépine plantés de part et d'autre de l'esplanade. Parking, dédale de béton, porte coulissante qui s'ouvre sur un grand patio central, batterie d'ascenseur, salle d'attente. J'ai rendez-vous avec le professeur Évariste Clouzot, le patron de l'Institut national de la mémoire, qui occupe tout le dernier étage du bâtiment. Clouzot est l'un des spécialistes français de la maladie d'Alzheimer. Je l'ai rencontré il y a 3 ans lors de l'enquête que mon groupe a menée sur le meurtre de son frère jumeau, Jean-Baptiste, chef de service du pôle cardiovasculaire dans le même hôpital. Les deux frères se vouaient une telle haine qu'en apprenant à être atteint d'un cancer du pancréas, Jean-Baptiste avait décidé de se suicider, en laissant penser qu'il pouvait s'agir d'un assassinat dont tous les indices accusaient son frère. À l'époque, l'affaire avait fait grand bruit. Évariste avait même été brièvement incarcéré avant que nous ne parvenions à faire éclater la vérité. Après sa libération, il avait dit à Seymour que nous l'avions libéré de l'enfer et qu'il nous garderait une reconnaissance éternelle. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. Lorsque je l'ai appelé, une semaine plus tôt, pour obtenir un rendez-vous, il m'a trouvé le jour même un créneau dans son emploi du temps. Après mon fiasco lors de l'interrogatoire du terroriste présumé, j'ai très vite recouvré mes esprits et ma mémoire. Mon absence n'a pas duré plus de 3 minutes, mais elle a eu lieu sous les yeux de tous. Taillandier m'a forcé à poser des congés, puis à bloquer mon retour en demandant un rapport suspensif à la médecine du travail. J'ai été obligé de passer une visite médicale poussée et de consulter de nouveau un psychiatre. Contre ma volonté, on m'a prescrit un long arrêt maladie. Ce n'était une surprise pour personne. Depuis des années, Taillandier ne faisait pas mystère de sa volonté de me débarquer de la crime. Si elle n'y était pas parvenue lors de l'affaire Vaughan, cet épisode lui offrait sa revanche sur un plateau. Mais je n'étais pas décidé à me laisser faire. J'ai alerté mon syndicat, pris conseil auprès d'un avocat spécialiste du droit du travail et consulté moi-même plusieurs médecins pour obtenir des certificats médicaux témoignant de ma parfaite santé. Je n'étais pas vraiment inquiète. J'avais le moral, l'envie de me battre et de retrouver mon poste. Certes, il y avait cette perte de mémoire aussi brève que subite, et il m'arrivait, comme à tout le monde, d'avoir de légères absences. Mais je les attribuais au stress, à la fatigue, au surmenage, à la chaleur. C'est d'ailleurs ce que m'ont dit tous les toubibs que je suis allé voir, à l'exception de l'un d'entre eux, qui a évoqué le risque d'une maladie neurologique et m'a demandé de passer un scanner. Préférant l'attaque à la défense, j'ai décidé de prendre les devants et de consulter de mon propre chef une autorité en la matière. J'ai frappé à la porte de Clouzot, qui m'a prescrit toute une batterie d'examens et d'analyses. La semaine dernière, je suis resté une journée entière dans ce foutu hôpital, endurant une ponction lombaire, une IRM, un PET scan, un bilan sanguin et divers tests de mémoire. Clouzot m'a fixé un nouveau rendez-vous aujourd'hui pour m'en communiquer les résultats. Je suis confiante et impatiente de réintégrer mon boulot. Ce soir, j'ai même prévu de sortir fêter ça avec mes 3 copines de fac, Karine, Malika et Samia. On ira boire des cocktails sur les champs et... Le professeur va vous recevoir. Une secrétaire m'introduit dans un bureau surplombant la Seine. Derrière sa table de travail, un meuble singulier constitué d'une aile d'avion lisse et brillante comme un miroir, Évariste Clouzot pianote sur le clavier de son ordinateur portable. Au premier abord, le neurologue ne paie pas de mine. Chevelure hirsute, teint pâle, visage défait, barbe mal taillée. il donne l'impression d'avoir joué au poker toute la nuit en s'enfilant des verres de single malt. Sous sa blouse dépasse une chemise Vichy mal boutonnée, surmontée d'un pull bordeaux à mailles irrégulières qui a l'air d'avoir été tricoté par une grand-mère complètement bourrée. Malgré son allure négligée, Clouseau inspire confiance, et sa renommée parle pour lui. Ces dernières années, il a participé à la mise en place de nouveaux critères diagnostiques de la maladie d'Alzheimer, et l'Institut national de la mémoire, qu'il dirige, est l'une des structures les plus en pointe dans la recherche et la prise en charge des patients souffrant de cette maladie. Lorsque les médias évoquent l'Alzheimer dans un reportage ou un JT, c'est généralement lui qu'ils viennent interroger en premier. Bonsoir, mademoiselle Schaeffer. Asseyez-vous, je vous en prie. En quelques minutes, le soleil s'est couché. La pénombre enveloppe la pièce. Clouseau retire ses lunettes d'écaille et me lance un regard de hibou avant d'allumer une vieille lampe de bibliothèque en laiton et opaline. Il appuie sur une touche du clavier de son ordinateur connecté à un écran plat fixé au mur. Je devine que ce sont les résultats de mes examens qui s'affichent sur le tableau lumineux. Je vais être honnête avec vous, Alice. L'analyse de vos biomarqueurs est inquiétante. Je reste silencieuse. Il se lève et explique. Ce sont les images de votre cerveau prises lors de l'IRM. Plus précisément, des images de votre hippocampe, une zone qui joue un rôle essentiel dans la mémoire et la localisation spatiale. Avec un stylet, il délimite une surface sur l'écran. Cette partie présente une légère atrophie. À votre âge, cela n'est pas normal. Le neurologue me laisse encaisser l'information avant d'afficher un autre cliché. La semaine dernière, vous avez passé un deuxième examen, une tomoscintigraphie par émission de positons. On a injecté dans votre corps un traceur marqué par un atome radioactif capable de se fixer sur votre cerveau et de mettre ainsi en évidence d'éventuelles réductions du métabolisme glucidique. Je ne comprends pas un mot. Il se fait plus didactique. Le PET scan permet donc de visualiser l'activité de différentes zones de votre cerveau et de... Je le coupe. Bon, qu'est-ce que ça donne ? Il soupire. Eh bien, on peut distinguer un début de lésion dans certaines zones. Il se rapproche du large moniteur et pointe avec son stylo un segment de l'image médicale. Vous voyez ces taches rouges ? Elles représentent des plaques amyloïdes qui se sont fixées entre vos neurones. Des plaques amyloïdes ? Des dépôts de protéines responsables de certaines maladies neurodégénératives. Les mots claquent et martèlent mon esprit, mais je ne veux pas les entendre. Clouseau enchaîne avec un autre document, une page remplie de chiffres. Cette concentration problématique en protéines amyloïdes est confirmée par l'analyse du liquide céphalorachidien prélevé lors de la ponction lombaire. Elle a également montré la présence de protéines tau pathogènes, ce qui valide que vous souffrez d'une forme précoce de la maladie d'Alzheimer. Le silence s'installe dans le bureau. Je suis abasourdi, sur la défensive, incapable de réfléchir. Mais c'est impossible, j'ai à peine 38 ans. C'est effectivement très rare, mais cela arrive. Non, vous vous trompez. Je refuse ce diagnostic. Je sais qu'il n'y a pas de traitement efficace contre la maladie. Pas de molécules miracles. Pas de vaccin. Je comprends votre émotion, Alice. Pour l'instant, je vous conseille de ne pas réagir à chaud. Prenez le temps de la réflexion. Rien ne vous oblige pour le moment à changer votre façon de vivre. Je ne suis pas malade. C'est une nouvelle très difficile à entendre, Alice, reprend Clouseau d'une voix très douce. Mais vous êtes jeune et au début de la maladie. De nouvelles molécules sont actuellement à l'essai. Jusqu'à présent, faute de disposer de moyens efficaces de diagnostic, nous identifions toujours les malades beaucoup trop tard. Tout cela est en train de changer et... Je ne veux plus l'écouter. Je me lève d'un bond et quitte le bureau sans me retourner. Hall. Batterie d'ascenseur qui s'ouvre sur le patio central. Dédale de béton. Parking. Vrombissement du moteur. J'ai baissé toutes les vitres. Je conduis cheveux au vent, l'autoradio poussé à fond. La guitare de Johnny Winter sur Further Up on the Road. Je me sens bien, vivante. Je ne vais pas mourir. J'ai la vie devant moi. J'accélère, je double, je klaxonne. Quai de Grenelle, quai Branly, quai d'Orsay. Je ne suis pas malade, j'ai une mémoire solide. On me l'a toujours dit à l'école, pendant mes études, puis lors de mes enquêtes. Je n'oublie aucun visage, je remarque tous les détails. Je suis capable de réciter presque par cœur des dizaines de pages rédigées par le procédurier. Je me souviens de tout. De tout. Mon cerveau bouillonne, mouline, carbure à plein régime. Pour m'en convaincre, je me mets à réciter tout ce qui me passe par la tête.
6 x 7 égale 42. 8 x 9 égale 72. La capitale du Pakistan est Islamabad. Celle de Madagascar, Antananarivo. Staline est mort le 5 mars 1953. Le mur de Berlin a été érigé dans la nuit du 12 au 13 août 1961.
Je me souviens de tout.
Le parfum de ma grand-mère s'appelait Soir de Paris. Il sentait la bergamote et le jasmin. Apollo 11 s'est posé sur la Lune le 20 juillet 1969. La petite amie de Tom Sawyer s'appelle Becky Thatcher. À midi, j'ai mangé chez Dessirier un tartare de dorade, Seymour un fish and chic. Nous avons chacun repris un café et l'addition se montait à 79,83 €.
Je me souviens de tout.
Même s'il n'est pas crédité, c'est Eric Clapton qui joue de la guitare dans la chanson « When My Guitar Gently Weeps » sur l'album blanc des Beatles. Il faut dire « Je vous saurais gré » et pas « Je vous serais gré ». Ce matin, j'ai mis de l'essence dans ma voiture à la station BP du boulevard Murat. Le sans-plomb 98 était à 1,684 €. J'en ai eu pour 67 €. Dans La mort aux trousses, Alfred Hitchcock apparaît juste après le générique du début. La porte d'un bus se referme sur lui et le laisse sur le trottoir.
Je me souviens de tout.
Dans les romans de Conan Doyle, Sherlock Holmes ne dit jamais « élémentaire, mon cher Watson ». Le code de ma carte de paiement est 9728. Son numéro est 05 73 52 33 37 54 61. Le cryptogramme est 793. Le premier film de Stanley Kubrick n'est pas Le baiser du tueur, mais Fear and Desire. En 1990, l'arbitre du match entre Benfica et l'Olympique de Marseille qui a accordé à Vata un but de la main s'appelait Marcel Van Langenhove. Mon père en a pleuré. La devise du Paraguay est le Guarani. Celle du Botswana est le Pula. La moto de mon grand-père était une Kawasaki H1. À 20 ans, mon père conduisait une Renault 8 Gordini couleur bleue de France.
Je me souviens de tout.
Le code de mon immeuble est le 6507B. Le code de l'ascenseur est le 1321A. Mon prof de musique en sixième s'appelait Monsieur Piguet. Il nous faisait jouer She's Like a Rainbow des Stones à la flûte à bec. J'ai acheté mes deux premiers CD en 1991, lorsque j'étais en première S. Du vent dans les plaines de Noir Désir et Les Impromptus de Schubert chez Deutsche Grammophon interprété par Christian Zimmermann. J'ai eu 16/20 au bac de philo. Le sujet de la disserte était « La passion fait-elle toujours obstacle à la connaissance de soi ?» J'étais en terminale C3. Le jeudi, on avait cours pendant 3 heures en salle 207. Je m'asseyais au troisième rang, à côté de Stéphane Muratore. Et à la fin de la journée, il me ramenait chez moi sur son scooter Peugeot ST qui peinait dans les montées.
Je me souviens de tout.
Belle du Seigneur compte 1109 pages en édition folio. C'est Zbigniew Preissner qui a composé la musique de La double vie de Véronique. Lorsque j'étais étudiante, le numéro de chambre de ma résidence universitaire était le 308. Le mardi, au resto U, c'était le jour des lasagnes. Dans La femme d'à côté, le personnage joué par Fanny Ardant s'appelle Mathilde Beauchard. Je me souviens des frissons que je ressentais lorsque j'écoutais en boucle sur mon premier iPod « That's my people », le morceau dans lequel NTM sample un prélude de Chopin. Je me souviens où j'étais le 11 septembre 2001, dans une chambre d'hôtel, en vacances à Madrid, avec un amant plus âgé, un commissaire marié qui ressemblait à mon père, l'effondrement des tours jumelles dans cette ambiance glauque. Je me souviens de cette époque compliquée, de ces hommes toxiques que je détestais, avant que je comprenne qu'il faut un peu s'aimer avant de pouvoir aimer les autres.
Je m'engage sur le pont des Invalides, attrape l'avenue Franklin Roosevelt et prends la rampe qui descend au parking souterrain. À pied, je rejoins les filles jusqu'au Motor Village du rond-point des Champs-Élysées.
Hello Alice.
Elles sont attablées à la terrasse du Fiat Café et grignotent des Stuzzichini. Je m'assois avec elle et commande un spritz au champagne, que j'avale presque d'un trait. On refait le monde, on rigole,
On échange les derniers potins, nos problèmes de mec, de fringues, de boulot. On commande une tournée de Pink Martini et on trinque à notre amitié. Puis on bouge, on essaie plusieurs établissements. Le Moonlight, le 13e étage, le Londonderry. Je danse, laisse les hommes m'approcher, me brancher, me toucher. Je ne suis pas malade, je suis bandante. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas m'étioler, je ne veux pas être une femme décousue. Je ne vais pas me flétrir comme une fleur coupée trop tôt. Je bois Bacardi Mojito, champagne violette, Bombay tonic. Je ne vais pas finir le cerveau en miettes, en insultant des aides-soignantes et en bouffant de la compote les yeux dans le vague. Tout tourne autour de moi. Je suis gentiment éméché, gai, ivre de liberté. Le temps défile. Il est plus de minuit. J'embrasse les filles et je repars vers le parking souterrain. 3e sous-sol. Éclairage de morgue. Odeur de pisse. Mes talons claquent sur le béton. Nausée. Malaise. Je titube. En quelques secondes, mon ébriété s'est teintée de tristesse. Je me sens oppressée, vaseuse. J'ai une boule dans la gorge et tout remonte à la surface. L'image de mon cerveau attaqué par les plaques séniles. La peur du grand naufrage. Un néon bien fatigué clignote et grésille comme un grillon. Je sors mon porte-clés, actionne l'ouverture automatique de ma voiture et m'écroule sur le volant. Les larmes me montent aux yeux. Un bruit. Il y a quelqu'un sur le siège arrière. Je me relève brusquement. L'ombre d'un visage émerge de l'ombre. Putain, Seymour, tu m'as fait peur. Bonsoir Alice. Qu'est-ce que tu fous là? J'attendais que tu sois seule. J'ai reçu un appel de Clouseau et je m'inquiétais pour toi. Et le secret médical, bordel! Il n'a rien eu besoin de me dire. Ça fait 3 mois que ton père et moi redoutons cet instinct. J'allume le plafonnier pour mieux le regarder. Lui aussi a des larmes plein les yeux. Mais il les essuie avec sa manche et s'éclaircit la voix. C'est à toi qu'appartient la décision, Alice. Mais je pense qu'il faut agir très vite. C'est ce que tu m'as appris dans le boulot. Ne jamais remettre à demain. Prendre le taureau par les cornes et ne plus le lâcher. C'est pour ça que tu es la meilleure flic. Parce que tu ne t'économises pas. Parce que tu es toujours la première à monter au front et parce que tu as toujours un coup d'avance. Je renifle. Personne ne peut avoir un coup d'avance sur l'Alzheimer. Dans le rétroviseur, je le vois ouvrir une pochette en carton. Il en sort un billet d'avion et une brochure dont la couverture est illustrée par une grande et haute bâtisse construite au bord d'un lac. C'est ma mère qui m'a parlé de cet établissement, dans le Maine, le Sebago Cottage Hospital. Qu'est-ce que ta mère vient faire là-dedans? Comme tu le sais, elle souffre de la maladie de Parkinson. Il y a encore 2 ans, elle tremblait énormément et sa vie était un enfer. Un jour, son médecin lui a proposé un nouveau traitement. On lui a implanté 2 fines électrodes dans le cerveau, reliées à un boîtier de stimulation implanté sous la clavicule. Un peu comme un pacemaker. Tu m'as déjà raconté tout ça, Seymour. Et tu as reconnu toi-même que les impulsions électriques n'empêchaient pas la maladie d'évoluer. Peut-être, mais elles en ont supprimé les symptômes les plus gênants, et aujourd'hui elle va beaucoup mieux. L'Alzheimer n'a rien à voir avec Parkinson. Je sais, dit-il en me tendant la brochure. Mais regarde cet établissement. Ils utilisent la stimulation cérébrale profonde pour lutter contre les symptômes de l'Alzheimer. Leurs premiers résultats sont encourageants. Ça n'a pas été facile, mais je t'ai trouvé une place dans leur programme. J'ai tout payé, mais il faut que tu partes demain. Je t'ai réservé un billet d'avion pour Boston. Je secoue la tête. Garde ton argent, Seymour. C'est du vent, tout ça. Je vais crever, point final. Tu as la nuit pour réfléchir, insiste-t-il. En attendant, je vais te ramener à la maison. Tu n'es pas en état de conduire. Trop épuisé pour le contredire, je me glisse sur le siège passager et lui abandonne le volant. Il est 17h, lorsque la caméra de surveillance du parking nous filme en train de quitter les lieux.